Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et merci d'avoir choisi Aligre FM pour passer votre soirée. Nous nous intéressons aujourd'hui à la colonisation du point de vue des philosophes français de la Renaissance à nos jours. La philosophie en présence du colonial et du décolonial. Comment la philosophie française s'articule-t-elle avec le colonialisme et le décolonialisme? Quel regard, quelle réflexion les philosophes français ont-ils porté sur les conquêtes coloniales, les territoires conquis et leurs habitants de la Renaissance à nos jours? Ce sont les interrogations que soulève le livre de Thierry Hoquet, Histoire décoloniale de la philosophie française, dont le point de départ est la question suivante. Y eut-il un philosophe français pour protester contre la conquête d'Alger en 1830? Histoire décoloniale de la philosophie française, de la Renaissance à nos jours, aux presses universitaires de France. Bonsoir Thierry Hoquet.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Thierry Hoquet, vous êtes donc philosophe. Vous avez notamment travaillé sur l'histoire naturelle au siècle des Lumières. Vos recherches ont également porté sur les questions de sexe et de race, au croisement entre biologie et société. Vous dirigez la revue Critique. Histoire décoloniale de la philosophie française, avec le D entre parenthèses, c'est une manière de dire que c'est à la fois colonial et décolonial et que les deux ont la même importance. Ce que l'on constate, Thierry Hoquet, dans votre livre, c'est que pour vous, la philosophie s'est toujours écrite en plein centre du monde, préoccupée et innervée par les affaires de ce monde qui nous entoure. Vous placez la pensée philosophique dans les lieux où se fait l'histoire, à côté des événements historiques. Il y a deux versants, dans votre livre. D'un côté, vous revisitez les figures majeures de la philosophie française à travers l'histoire de la colonisation, leur pensée ou non par rapport à la colonisation, comment ils l'ont rencontrée. De notre côté, vous mettez au jour les figures moins connues, très stimulantes, qui portait une parole sur la question de la colonisation. Alors, on s'arrête à une première date, Thierry Hoquet, 1492. Donc, Christophe Colomb, le navigateur génois, arrive en Amérique. C'est la prise de Grenade, l'expulsion des Juifs d'Espagne au nom de la pureté du sang. Voilà quelques grands événements de cette année. C'est un moment ibérique, cette péninsule, Espagne et Portugal, concentre un certain nombre d'événements qui forment une bascule dans l'histoire mondiale. Donc 1492 est une année essentielle pour comprendre l'avancée de la pensée européenne. Alors c'est un événement, je le dis, essentiellement ibérique. Peut-on rattacher la pensée philosophique française à cet événement? La France a-t-elle participé à cet événement?
Oui, alors merci. Hein, effectivement, je commencerai peut-être par rappeler le propos d'Édouard Glissant qui disait « C'est Colomb qui est parti et c'est moi qui suis revenu ». Pour dire qu'effectivement, c'est lié de manière intrinsèque. C'est un événement dont on ne peut pas faire l'économie. Donc la question, c'était pour moi de savoir effectivement comment la France avait pu être, d'une manière ou d'une autre, impactée par cet événement ibérique, en fait. Donc il me semble qu'il y avait deux manières de le faire. La première, c'était de s'intéresser aux tentatives d'implantation coloniale de la France à cette époque. D'autre part, de voir comment ce 1492 avait pu retentir dans la pensée française postérieure. Donc, sur le premier point, c'était très intéressant de voir notamment comment les Français avaient tenté de s'implanter dans les territoires qui correspondent aujourd'hui notamment à la région de Rio de Janeiro au Brésil, et que ça a été une première tentative d'implantation qui s'appelle la France Antarctique. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir que véritablement, on a eu là une sorte de laboratoire des guerres de religion. Donc les Français partis outre-Atlantique, à l'autre bout du monde, on pourrait dire, se trouvent enfermés dans une sorte de vase clos, et on a les catholiques et les protestants qui se disputent et qui s'auto-détruisent, comme une anticipation de ce qui va se produire quelques années plus tard en France. Donc oui, il y a eu des aventures coloniales, des entreprises coloniales, qui font un peu figure d'amateurisme, je dois dire, hein, quand on voit ça, et on voit par opposition, le triomphe violent et brutal des conquistadors, ça interroge sur la signification de ce que c'est que l'empire colonial français. C'est-à-dire, celui-là, il a une histoire, en fait. Et la question, c'est de savoir à partir de quand on a véritablement quelque chose comme un impérialisme français. Édouard Saïd explique par exemple que encore au début du 19e siècle, il n'y a pas d'empire colonial comparable à ce qu'a par exemple la Grande-Bretagne. Donc on a une histoire accidentée avec des formes de colonialité qui sont évidemment historiques. Donc ça, je crois que c'est le premier point qu'il faut noter. Le second point, c'est sur donc, cet impact de 1492. Je pense qu'il est double et il s'exprime dans les deux figures de Montaigne et de Descartes. La figure de Montaigne, elle est importante parce que c'est pas que Montaigne est allé au Brésil, mais Montaigne était très intéressé par ce qui s'était passé au Brésil. Il avait notamment des collections d'objets amérindiens, on peut dire. Et puis, il a rencontré, et ça c'est encore plus frappant, des Brésiliens. C'est un peu anachronique comme détermination, mais voilà. Des gens de là-bas qui sont venus jusqu'à Rouen, et c'est là qu'il les a rencontrés. Et il aurait eu avec eux une conversation par le truchement d'un interprète, et une conversation sur, non pas sur leur mode de vie et la bizarrerie éventuelle de leurs coutumes. Non, une conversation sur l'état de la France, sur ce que c'est que la société française et sur ce qu'eux, ils en pensaient. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait saisissant, parce qu'on entend du coup, dans le fameux essai de Montaigne qui s'appelle « Des cannibales », on entend la voix supposée de Tupinamba qui juge, et qui juge à la fois très lucidement et très sévèrement la société française. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est cette présence d'abord chez Montaigne, et puis à l'inverse, l'interrogation qu'on peut avoir sur l'absence de toutes ces questions quand on s'intéresse à la philosophie de Descartes. Et ça aussi, ça croise la question coloniale, même ce silence croise la question coloniale, puisque en particulier, le philosophe Enrique Dussel, qui est, si je me souviens bien, argentin, mais qui a fait une grande partie de sa carrière au Mexique, eh bien, il a analysé la philosophie cartésienne, et en particulier le célèbre « Je pense donc je suis », le « Ego cogito » de Descartes, comme étant une sorte de séquelle, hein, de conséquences indirectes de 1492. Et il reformule « ego cogito, je pense » comme « ego conquiro, je conquiers ». Donc, même Descartes, dans son silence magistral ou souverain sur la question coloniale, serait en vérité imbibé, imprégné de cet événement dont on ne peut pas faire l'économie. Donc, ça, 1492, oui, en apparence, la France n'a pas pris part à ça, mais en même temps, ça a des retentissements extrêmement profonds.
C'est-à-dire, concrètement, Thierry Hoquet, on ne sait pas, est-ce que Descartes est-il informé de ce qui se passe dans les Amériques ? Est-ce qu'il en parle ? Qu'a pensé Descartes de ces nouveaux peuples, de ces nouvelles terres ? On n'en sait rien, finalement.
Non, ça ne l'intéressait pas, manifestement.
Oui. Alors,
ça ne paraît pas l'avoir ébranlé.
Alors, vous mettez au jour une autre figure, un philosophe en tout cas pour moi moins connu, qui est donc Pierre Gassendi et surtout un disciple de Pierre Gassendi qui s'appelle François Bernier, un philosophe donc contemporain de Descartes et qui lui analyse tout autrement cette réalité-là, cette réalité du nouveau monde. En quoi sa pensée forme-t-elle un contrepoint par rapport à la pensée de Descartes ?
Alors, on dit parfois que Descartes a voyagé, mais en fait, il a voyagé assez près, quoi. Il est allé principalement, enfin, le voyage le plus célèbre de Descartes, c'est aux Pays-Bas, vous voyez. Donc, c'est très important, mais ça ne va pas très loin non plus en termes de dépaysement. Mais en fait, c'est très intéressant que Descartes ait été aux Pays-Bas parce que les Pays-Bas étaient quand même une puissance coloniale extrêmement dynamique, une puissance commerciale extrêmement dynamique et qui participait à ce commerce mondial sans doute, je pense, beaucoup plus que la France à cette époque. Et donc, en étant aux Pays-Bas, Descartes est en permanence confronté à des gens qui reviennent des autres mondes. Donc, il ne peut pas ignorer ça complètement. Donc, il ne l'ignore pas. Il a d'ailleurs des amis qui partent, notamment le père Mélan, un de ses correspondants, qui part en mission là-bas. Donc, il est au courant de tout ça, mais manifestement, en fait, pour lui, ce n'est pas une question qui se pose. Il décourage ses amis de partir là-bas. Il dit « on a assez à faire ici ». Même s'il s'agit de convertir des athées à la foi chrétienne, eh bien, faisons le travail déjà en Europe et puis on s'occupera de là-bas plus tard. Donc Descartes, il est vraiment très étonnant, à la fois par son ancrage européen, en fait, et puis par son indifférence à ce qui se passe. À l'inverse, François Bernier, alors je ne crois pas qu'il soit allé au Nouveau Monde, mais il a, pour sa part, lui, beaucoup voyagé, et notamment dans l'Ancien Monde, jusque sur les terres de celui qu'on appelle le Grand Mogol, qui était un immense seigneur, qui était l'équivalent, en fait, de Louis XIV à l'époque. Et donc, il a ces deux visions de grands rois, de grandes puissances, qu'il met en parallèle. Et donc, il a cette expérience comparatiste. Mais surtout, entre l'empire du Mogol et puis le royaume de France, il y a énormément de territoires qu'il a parcouru. Il a donc énormément voyagé. Il a rencontré l'esclavage. Il a rencontré des peuples extrêmement divers. Et Bernier, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, il considère que la diversité des mœurs, la diversité des cultures, elle est aussi indexée sur la diversité des territoires, des terroirs, donc les modes de vie et les climats sont en quelque sorte harmonisés et en correspondance les uns avec les autres. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que du coup, on pourrait dire que Bernier développe une sorte d'anthropologie située en fait, et puis inscrite dans des climats. Là où Descartes, lui, il fait une anthropologie métaphysique, une anthropologie abstraite, une anthropologie dans laquelle, finalement, c'est ce qui fait un humain ce qu'il est, c'est une puissance abstraite, métaphysique, immatérielle et immortelle qui est l'âme. Et donc, en mettant ça en avant, on a d'un côté une anthropologie extrêmement générale, abstraite et métaphysique, et de l'autre, une anthropologie, je dirais, relativiste et circonstanciée et située. Et la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, laquelle est préférable? Laquelle est la plus généreuse? Laquelle est la plus propice à nous donner une conception de ce qu'est vraiment l'humain? Et là, je crois que, étonnamment peut-être, Descartes n'a pas dit son dernier mot, au sens où il me semble que Descartes, avec sa manière de dire tout être humain en tant qu'il pense et il a un langage à la même dignité que les autres, et à la même capacité à la fois à comprendre et à se tromper, y a là des ressources peut-être humanistes, je dirais, et en tout cas égalitaires dans leurs principes, qui peut-être sont interdites à la pensée davantage circonstanciée de Bernier. D'ailleurs, c'est pas par hasard que Bernier va être un des premiers à proposer une typologie raciale, c'est-à-dire une division de l'humanité en différentes variétés. Alors, c'est très complexe, hein, la théorie de Bernier, mais vous voyez, d'un côté, quelqu'un qui ne voyage pas, mais qui a une vision abstraite et métaphysique de tous les humains comme égaux par le principe par lequel ils pensent, et de l'autre, quelqu'un qui voyage, qui connaît la différence des cultures, des peuples et tout, mais qui les inscrit dans des terroirs, dans des conditions physiologiques, dans des humeurs, et qui, du coup, en vient à penser des mécanismes physico-chimiques, hein, physiologiques, pour comprendre comment ces différences sont produites. Alors,
lequel choisir ?
Lequel choisir, voilà.
Alors, Thierry Hoquet, vous avez une partie de votre livre s'intitule « La philosophie doit-elle voyager ?» Donc, oui. C'est une question. Donc, c'est avec cette question que vous abordez la philosophie des Lumières. Sur cette question, il y a beaucoup à dire, bien sûr, sur la philosophie des Lumières. Alors, à ce moment-là, donc, c'est une période pendant laquelle les voyages de découverte s'intensifient, les relations aussi. Comment la philosophie, à ce moment-là, s'informe-t-elle du monde ? Comment la philosophie apprend-elle le monde ?
Alors, la question de la philosophie doit-elle voyager, elle vient de... Les philosophes doivent-ils voyager ? En fait, elle vient de Rousseau. Elle vient de Rousseau qui s'étonnait précisément de la pauvreté des sources d'information des philosophes. En gros, qui voyage à l'époque ? Bien, vous avez des soldats, vous avez des missionnaires, vous avez des commerçants. Il doit y avoir une autre catégorie que j'oublie, mais ça fait déjà trois importantes. Rousseau dit, en fait, ce ne sont pas des bonnes sources d'informations, vous comprenez. Ce sont des gens qui ont d'abord tous des intérêts dans leur commerce, des soldats, des prêtres et des marchands. Ça ne fait pas de bons informateurs, ça ne fait pas des personnes qui voyagent pour connaître et pour comprendre.
En fait, il pose la question, comment parler de l'humain alors qu'on est tranquillement installé en France ?
C'est ça, voilà. Donc, quand on ne connaît que, finalement, au mieux, quelques Européens, peut-être quelques visiteurs si on est proche de la cour du roi. Mais voilà, donc on a une information extrêmement pauvre et une vision biaisée de ce que c'est que... Enfin, partielle, en tout cas, partielle de ce que c'est que l'être humain. Donc, effectivement, Rousseau, lui, enjoint les grands anthropologues, hein, entre guillemets, mais disons Buffon, le naturaliste du Jardin du Roi, Montesquieu, qui a écrit un magnifique Esprit des lois, il les enjoint à parcourir le monde pour vraiment connaître ce que c'est que l'humain. Donc, il y a une critique véritable de ce que c'est, justement, qu'on appelle l'humain, c'est-à-dire de quelle manière cette catégorie peut véhiculer des biais évidents. Donc, est-ce que la philosophie doit voyager ? Je pense que la conclusion implicite de Rousseau, c'est oui, parce que du coup, les philosophes ont besoin d'informations non biaisées concernant la diversité des peuples. Ils ont besoin d'aller pratiquer une sorte de philosophie expérimentale, hein, c'est-à-dire une manière de confronter leurs hypothèses à la diversité des peuples et des tempéraments. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, du coup, on a tout de suite une perception très claire des biais qui peuvent grever le sens de la philosophie, qui peuvent empêcher la philosophie d'être bonne, et donc une volonté de la mettre à l'épreuve du monde. La dénonciation des philosophes de cabinet et le sentiment... tout à fait aigu et douloureux du fait que la philosophie se coupe les jambes en se condamnant à des visions tronquées de ce que c'est que l'humain. Des visions idéalisées, des visions biaisées, mais on pourrait même dire que finalement, il fallait sortir aussi déjà des milieux aristocratiques ou de la cour ou bourgeois pour connaître véritablement l'humain, mais Rousseau va au-delà en fait. Et cette question, si je peux encore dire un mot là-dessus, elle est aussi liée au caractère extrêmement élémentaire des informations qu'on reçoit, bien sûr, sur les autres peuples, mais aussi sur des créatures qui font irruption à ce moment-là dans le paysage philosophique, qu'aujourd'hui on appellerait les grands singes anthropomorphes, mais qu'à l'époque, on appelle les Pongos, les Jokos, et dont on ne sait rien ou très peu de choses, à part quelques récits de voyage qui en gardent la trace. Et on a l'image de créatures qui marchent sur deux pieds, qui parlent en sifflant, qui sortent la nuit, qui sont albinos, etc. Donc des créatures qui sont à la fois, qui ont des résonances mythologiques et qui en même temps paraissent avoir quelques-uns des attributs de l'humain et sur lesquels on a des informations qui sont beaucoup trop partielles. Donc ici, c'est aussi pour trancher cette question métaphysique très importante et dont Descartes ne pouvait pas avoir conscience parce qu'on ne connaissait pas ces créatures à l'époque, c'est-à-dire combien y a-t-il d'espèces humaines, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule espèce humaine, celle que Linné appellera, le naturaliste suédois appellera Homo sapiens, ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres types d'humanité, ce que Linné lui-même introduira dans son système de la nature en 1758, en l'appelant l'homme troglodyte, l'homme nocturne qui fait contrepoint à l'homme diurne, Homo sapiens. Donc, des hommes diurnes, l'humanité tout entière, avec toutes ses variations, et puis une autre espèce du genre humain, qui serait ces grands singes, hein, ce qu'aujourd'hui on appellerait les grands singes, mais qu'à l'époque on appelle du coup les troglodytes, d'un nom mythologique qui montre l'ambiguïté de ces créatures. Donc ça c'est très intéressant je trouve aussi, parce qu'au fond on est à une époque du savoir anthropologique où non seulement bien sûr l'humanité européenne ou les peuples européens sont confrontés à la diversité anthropologique et se posent ce qu'on appelle la question raciale, mais plus profondément il y a un trouble sur les contours même de notre espèce. La question raciale, en fait, elle est assez... Je vais vous choquer peut-être, mais je vais dire qu'elle est assez confortable parce qu'elle se situe à l'intérieur de l'espèce humaine à laquelle la majorité des penseurs ne saurait renoncer parce que c'est un dogme chrétien, l'unité de l'espèce. Donc, à l'intérieur de l'espèce, on peut faire des typologies, etc. Mais là, avec ces créatures albinos qui parlent la nuit en sifflant et en marchant sur deux jambes, on a affaire à un double de l'espèce humaine, une sorte de frontière intérieure de l'espèce humaine qui est véritablement problématique parce qu'elle engage véritablement la différence entre l'humain et l'animal. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, mais les peuples racialisés, ils sont régulièrement animalisés aussi. Mais cette animalisation, la plupart du temps, elle a des effets politiques tout à fait majeurs et que je ne saurais minorer. Mais malgré tout, elle reste dans un cadre symbolique qui est le cadre de l'espèce humaine. Encore une fois, je vais vous choquer, mais je vais dire, on ne peut mettre en esclavage qu'un autre humain. On est toujours dans le cadre de l'espèce humaine, mais avec ces espèces hybrides et au statut métaphysique indécis, on a ici une inquiétude très forte qui chamboule le discours anthropologique et pour laquelle on n'a pas d'éléments qui permettent de trancher la question. D'où cet appel hein, de Rousseau à ses confrères qui dit « Allez-y voir, en fait. »
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Je reçois Thierry Hoquet, philosophe, qui publie aux Presses universitaires de France « Histoire décoloniale » de la philosophie française, de la Renaissance à nos jours. Puisque nous évoquons donc les Lumières, Thierry Hoquet, en plein milieu justement de ce siècle des Lumières, quel philosophe français s'est-il explicitement opposé à la colonisation et à l'esclavage ?
Je dirais que le plus fort pour moi, le plus flagrant, celui qui a... Voilà, ma sympathie la plus grande, c'est bien sûr Diderot. Diderot qui a des termes extrêmement virulents, notamment dans les textes qu'il écrit pour l'histoire du commerce des deux Indes de l'abbé Raynal. Il y a des textes qui sont de Diderot qui sont là, présents dans le texte, qui ne sont pas identifiés comme tels, mais que depuis on a identifiés. Et dans ces textes, Diderot véritablement... et vibrant en fait dans sa dénonciation de ce qu'on fait aux Amériques, de ce qu'on fait donc en Afrique, c'est-à-dire de ce commerce triangulaire et de cette manière dont on le justifie à l'époque, qui est doublement atroce et répugnante, qui est que, ayant si bien exterminé les Indiens des Amériques, mmh. les indigènes des Amériques, on a dû asservir les peuples d'Afrique pour les faire travailler dans les mines et sur un continent qu'on avait véritablement désertifié à force de génocide et de pratiques génocidaires. Voilà, donc c'est quelque chose voilà, que Diderot perçoit très bien. Il perçoit aussi également comment ce qu'on décrit parfois comme le tempérament des peuples, hein, c'est-à-dire le fait que les personnes de telle ou telle origine, de tel ou tel peuple, mmh. semblent abattues, ne prennent pas soin de leur culture, n'ont pas le goût du travail, etc. Et bien qu'il ne s'agit pas d'un tempérament biologique, mais en fait des conséquences, on pourrait dire, normales ou inévitables de la destruction et de l'annihilation morale et physique qu'on leur a fait subir. Donc là-dessus, il a non seulement un diagnostic qui est très juste, mais aussi des mots très forts appelant à faire ou à voir couler hein, le sang des oppresseurs et décrivant les cris de joie en fait hein, des anciens opprimés et de la terre elle-même qui se réjouit de ce sang de l'oppresseur qui coule en fait. Donc là, on est dans les années 1770, bien avant que Jean-Paul Sartre n'écrive une préface pour Frantz Fanon, où il appelle à tuer les colons. Eh bien, voilà, Diderot, déjà, disons, deux siècles plus tôt, a des mots tout à fait comparables. Et je pense que, voilà, il a un diagnostic qui nous touche énormément par sa force.
On va poursuivre notre entretien concernant votre livre, Thierry Hoquet, Histoire décoloniale de la philosophie française, cette presse universitaire de France, juste après la musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. This is why I'm hot, 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 I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why I'm hot, I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why I'm hot. This is why I'm hot, I don't gotta rap. I could sell a mill saying nothing on the track. I represent New York, I got it on my back. You can say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty dirty, cause niggas show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit the, I watch them get it on the floor. And if you need it hypey, I take it to the Bay. Frisco to Sac Town, they do it every day. Compton to Hollywood, soon as I hit LA. I'm in that low low, I do it the Cali way. And when I hit the shy, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm hot, this is why I'm hot. 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 I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why I'm hot. This is why I'm hot. Catch me on the block. Every other day, another push, another drop. 16 bars, 24 pop. 44 song, give me what you got. I'm in the driving cars, crush up off the lot. I'm in the shutting stars down just so I can shop. If you need a bird, I could get it chopped. Tell me what you need, you know I get them by the flock. I call my homie Black, meet me on the Ave. I hit Wash Heights with the money in the bag. We in the big spin and see my pimpin' never drag. Find me with different women that you niggas never had. For those who say they know me, know I'm focused on my cream. Play you. you come between, you better focus on the beam. I keep it so mean, the way you see me lean. And when I say I'm hot, my nigga, this is what I mean. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, shorty see the drop. Ask me what I paid and I say yeah, I paid a guap. And then I hit the switch, that take away the top. So chicks around the way, they call me cream of the crop. They hop in the car, I tell them all aboard. We hit the studio, they say they like how I record. I gave them black train and I did you wrong.
This is why I am hot, c'est la musique de Mims sur Aligre FM 93.1. Nous sommes en compagnie de Thierry Hoquet, qui publie aux Presses universitaires de France « Histoire décoloniale de la philosophie française, de la Renaissance à nos jours ». Alors, la prise d'Alger en 1830, Thierry Hoquet, à ce propos, vous dites « y eut-il un philosophe français pour s'en indigner ?» Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Direct, qui est quand même un point de départ du livre.
Oui, c'est un point de départ parce que c'est une vraie ignorance, en fait. C'est-à-dire, on se dit, okay, très bien, la colonisation de l'Algérie, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que les philosophes s'en sont mêlés ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement les différents débats dans l'opinion publique. Ça, c'est le travail des historiens qui montrent comment les députés, les publicistes, les journalistes, etc., ont eu des arguments sur ces questions, des disputes sur l'interprétation même des faits et sur la justice ou la justesse ou l'injustice de ces actes qui sont commis à l'époque. Mais donc, la philosophie dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui en a été dit? On peut aller voir du côté de Tocqueville qui a fait deux rapports sur l'Algérie. Tocqueville, c'est une figure très ambivalente sur la question. Ouais. Parfois, il est décrit vraiment comme quelqu'un d'odieux. En vérité, dans ces textes, il y a aussi une dénonciation assez nette de l'indignité du comportement des Français là-bas. C'est-à-dire, en fait, il explique que ça sert à rien de chasser les Ottomans, puisque c'était une domination ottomane en Algérie à l'époque, de chasser les Ottomans d'un côté, donc de chasser la puissance musulmane pour remplacer par une occupation chrétienne, on va dire, l'occupation de la France. Ça ne sert à rien de faire ça si c'est pour se comporter, aussi mal, voire pire que les prédécesseurs, en fait. Donc, y a quand même cette voix qui est exprimée par Tocqueville. Ça, c'est une première réponse. Mais la deuxième réponse est peut-être la plus forte sur cette question. Elle vient de quelqu'un qu'on n'attendrait sans doute pas forcément. C'est Auguste Comte, le fondateur du positivisme. Je dis, on l'attendrait peut-être pas forcément parce qu'aujourd'hui, on a une image un peu schématique du positivisme comme étant une théorie du progrès et une théorie qui pense que l'humanité passe par trois états. Un état théologique, un état métaphysique et puis un état positiviste. Et donc, on pourrait se dire qu'avec une telle vision du monde et de l'histoire, Comte avait une sorte de hiérarchie implicite des peuples et de leur place ou de leur niveau dans cette hiérarchie historique. Or, pas du tout, je dirais. Comte, en fait, considère certes que les peuples jouent différents rôles à différents moments dans l'histoire, mais d'abord, il n'a pas du tout de sentiment de la supériorité de la civilisation chrétienne sur la civilisation musulmane, par exemple. Dans ses écrits historiques, il ne déplore pas le fait que Constantinople soit tombée sous les coups des Ottomans, justement. Pour lui, c'est simplement à un moment, cette puissance-là était complètement... croulé en fait, était prête à s'écrouler et les musulmans lui ont insufflé une nouvelle vie, l'Empire romain était fini et donc ça s'est poursuivi autrement. Donc ça pour lui, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de solidarité nécessaire avec les autres puissances chrétiennes. Il est conscient que l'histoire, elle est rusée, elle passe comme ça par des voies, des truchements tout à fait inattendus et dont les chrétiens ne sont pas du tout la puissance exclusive ni nécessairement le fer de lance. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, ce qui frappe le plus Auguste Comte dans cette affaire, c'est que, et c'est amusant de voir les raisons qui le motivent, en fait. Au fond, pour lui, le militarisme est quelque chose qui doit disparaître. C'est un archaïsme. C'est-à-dire, une conquête militaire, c'est une conquête qui date d'une autre époque. Et donc, toute puissance qui s'étend par le biais de la force militaire, ben, c'est une puissance qui est infondée et qui est une puissance surtout qui relève du passé, en fait. Donc, Comte, il a une telle foi dans, on pourrait dire, la démilitarisation nécessaire des rapports humains, une telle conviction que la guerre est un archaïsme voué à s'effacer, finalement, que l'attitude des Français en Algérie, qui est une attitude de conquête militaire assez brutale, elle est indigne, non seulement parce que les Français sont une puissance chrétienne, mais surtout parce que, en fait, on ne conquiert plus militairement. Tout ce qui est conquis militairement est nécessairement injuste. Donc, voilà, ce qui doit convertir les peuples, ce qui doit les faire changer, ce qui doit les réunir, c'est la puissance des idées, de la raison, la technique, les échanges, un progrès général des idées. Mais la colonisation telle qu'elle se fait, c'est-à-dire par la suggestion militaire, ça, c'est vraiment pour lui quelque chose de répugnant, en fait. Et il n'hésite pas à le dire. Et il n'hésite pas à le dire à plusieurs reprises, hein, que les Français devraient rendre l'Algérie aux Ottomans et tout simplement ne pas se compromettre dans ce type d'aventure. Voilà. Donc,
Alors, une question, Thierry Hoquet, concernant cette notion d'universel. Même si, effectivement, ces philosophes, notamment des Lumières, ne se sont pas intéressés, enfin très peu d'entre eux, aux questions de l'esclavage, n'ont pas pris position contre l'esclavage, contre la colonisation, dans le même temps, c'est une partie de leur... Au fond, c'est leurs idées qui va quand même contribuer, il n'y a pas que ça, bien sûr, à favoriser le soulèvement des esclaves, notamment à Saint-Domingue. Quand on voit que des révolutionnaires comme Toussaint Louverture à Saint-Domingue, Delgrès en Guadeloupe, vont quand même retourner les arguments de ces valeurs de civilisation contre les oppresseurs, finalement. Mmh. Est-ce que, malgré tout, ce que je veux dire par là, ces philosophes qui, tout en ne prenant pas position, tout en ne condamnant pas l'esclavage, d'une certaine façon, ils vont quand même, inconsciemment et indirectement, contribuer à son effondrement.
Oui, alors, bon, deux choses. La première chose, c'est, est-ce qu'ils n'ont pas condamné l'esclavage ? On leur reproche parfois d'avoir bénéficié de l'esclavage ou bénéficié indirectement de l'esclavage à travers des actions qu'ils pouvaient avoir dans le commerce colonial ou des choses comme ça.
C'est le cas de Voltaire, par exemple.
Voilà. Donc ça, c'est un procès qu'il leur a régulièrement fait qui est tout à fait fondé. Enfin, en tout cas, c'est une question qui mérite d'être soulevée. Voilà. En revanche, le fait qu'ils n'aient pas condamné l'esclavage, ça me semble souvent faux. Voltaire, quelles que soient ses sources de revenus par ailleurs, il a quand même décrit dans Candide l'épisode qu'on appelle celui du nègre de Suriname, qui montre clairement la violence qui est faite aux esclaves dans les colonies, et avec cette conclusion tout à fait claire, hein, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est imparable. Donc, quel que soit ce qu'a dit Voltaire, ou ce qu'a fait Voltaire, il a donné à la figure de l'anti-esclavagisme une de ses pages les plus belles et les plus bouleversantes. De la même manière, Montesquieu, qui en tant que Bordelais est parfois mis en cause, dans le livre 15 de l'Esprit des Lois, il y a un démontage point par point de ce que c'est que l'esclavage. Hein. Il n'y a pas seulement le célèbre chapitre selon lequel Dieu n'aurait jamais donné un nez si épaté à des créatures s'il avait voulu leur donner une intelligence, etc. Enfin, toute cette dénonciation très ironique dont on peut discuter, mais il y a des arguments tout à fait nets hein, sur le fait que l'esclavage ne saurait être fondé en droit, en fait. Donc ça, c'est vraiment tout à fait catégorique. Et donc, dire qu'ils n'ont pas pris position contre l'esclavage, c'est aller un peu vite en besogne. Voilà. On peut leur reprocher des choses d'un côté, mais en tout cas, sur le plan théorique, ils ont quand même pris des positions, il me semble, qui sont assez courageuses, assez éclairantes. De la même manière, d'ailleurs, que même la faculté de théologie, hein, qu'on accuse parfois d'avoir été assez veule, assez lâche, de ne pas avoir assez dénoncé clairement l'esclavage, eh bien, dans le dictionnaire des quatre consciences, qui était un peu le livre qui devait guider les chrétiens dans leurs actions, il est clairement dit que quiconque... bien sûr, l'esclavage n'est pas condamnable en soi, voilà ce qui est dit, parce qu'il y en a toujours eu, il y en a partout, même dans la Bible, il est fait mention d'esclavage, etc. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, quiconque achètera un esclave aux Antilles ou ailleurs... ne pourra ignorer qu'il commet un crime. Parce qu'on sait très bien que la manière dont les personnes qui sont vendues sur ces marchés ont été asservies est indigne. Ce ne sont ni des prisonniers de guerre, ni des personnes qui sont coupables d'avoir fait, etc. Donc, les personnes qui sont là sont des personnes qui ont été assujetties de manière illégale, violente et brutale. Et donc, toute personne qui les achètera commettra une faute morale très grave. Donc, il y a quand même des textes qui... sont assez nuancés, hein, parce que, effectivement, ce n'est pas une condamnation pure et simple de l'esclavage, de la même manière qu'on ne peut pas condamner, par exemple, le fait de mettre en prison les gens s'ils ont commis des crimes. Ben, l'esclavage, ça peut être une peine à laquelle on condamne certaines personnes. Mais il est très clair que, dans la situation concrète des Antilles, personne n'est dupe de ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, et c'était votre question, c'est-à-dire la valeur des idéaux et des, plus généralement, je dirais, des notions abstraites. Idéaux, liberté, égalité, fraternité, notions abstraites, l'humanité, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'humanité, le souci de l'humanité? Eh bien, effectivement, c'est une des choses que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que ce n'est pas seulement que ces idées, elles ont été forgées par des intellectuels européens un peu évaporés ou coupés des réalités, c'est qu'elles ont été reprises stratégiquement dans les luttes émancipatrices, en vue de l'émancipation de la part des personnes asservies. Et donc ça a été le cas à Saint-Domingue, ça a été le cas dans les Antilles. Donc on a effectivement les noms que vous avez cités, celui de Toussaint, celui de Delgrès. Ouais. Tout ça, c'est tout à fait fondamental. On a des gens qui mettent en vérité les héritiers de la Révolution française en contradiction avec eux-mêmes, et en particulier quand les troupes napoléoniennes sont envoyées pour mater les révoltes, eh bien, elles ont le choc d'entendre les hymnes, le Saïra et les hymnes révolutionnaires qui sont chantés par les insurgés, en fait. Donc, posant la question, finalement, de quel côté sont les idéaux de la Révolution? Qui se bat véritablement pour les idéaux de la Révolution? Eh bien, ce sont les personnes qui luttent pour leur émancipation. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est important de le rappeler, je crois, parce que de la même manière, dans les années 1940, dans la guerre d'indépendance indochinoise, ce qui n'est pas encore la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, donc, Tran Duc Tao, par exemple, l'intellectuel phénoménologue vietnamien, va montrer comment une notion qui peut paraître à certains intellectuels marxistes européens comme étant un peu suspecte, comme la notion de démocratie, eh bien, elle a un impact, elle a une unité, elle a une valeur pour unir le peuple vietnamien dans un certain nombre de luttes contre la puissance coloniale. Donc ces valeurs, dont on peut faire la critique, hein, parce que voilà, l'universel, il est toujours situé, c'est un faux universel, etc.
L'universel de quelqu'un d'autre.
Ouais. Donc ça, ces critiques-là, elles sont valables. Mais ce qui est important, c'est que à certains moments de l'histoire, dans certaines luttes, eh bien, les personnes opprimées, elles peuvent s'emparer,
s'en servir,
tactiquement, stratégiquement, de ces idéaux pour les opposer aussi à leurs oppresseurs et pour nourrir leur propre lutte.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Thierry Hoquet, il y a une figure que vous évoquez dans votre livre et je tiens à ce qu'on en parle. Je vous cite en page 287 concernant la partie sur Frantz Fanon. Dans la philosophie de cette époque, je rappelle donc Frantz Fanon est né en 1925 et meurt en 1961. Dans la philosophie de cette époque, c'est la trajectoire boulante de Frantz Fanon qui incarne le mieux la perspective décoloniale qui est la nôtre. D'une part, donc, de quelle manière est-ce que c'est le fait que chez lui se rejoint l'homme d'action militant et le penseur?
Et disons que cette action militante, elle a connu plusieurs étapes, elle a connu plusieurs phases et elle a connu surtout plusieurs phases de déconvenues, je dirais. Donc pour moi, c'est l'histoire d'une conscience malheureuse qui cherche à s'arracher à des masques ou à des peaux qui la recouvrent et qui apparaissent comme étant fausses, en fait. Donc c'est ça qui, à mon sens, la caractérise comme profondément décoloniale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut décoloniser les Antilles et les personnes antillaises, le peuple antillais. Qu'est-ce que ça veut dire, les décoloniser ?
Vaste question, valable encore aujourd'hui.
Absolument, voilà, valable encore aujourd'hui. Il y a eu, à l'époque, plusieurs tactiques, je crois, où il y a eu, disons, la façon Aimé Césaire, rester dans son peuple et essayer de chanter, d'instruire, de travailler avec ce peuple et avec cette culture et cette histoire. Et il y a eu la version Fanon qui a été une sorte de fuite en avant sans aucun retour. Donc, la trajectoire de Fanon, elle est bouleversante parce que aussi, elle est le témoignage d'une histoire qui est irréversible. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? Fanon découvre d'abord en France qu'il n'est pas tout à fait un Français comme les autres. Il fait l'expérience de la peau noire, on va dire, et de ce qu'elle peut susciter comme réaction raciste.
C'est-à-dire, pour lui, en tant qu'Antillais, n'était pas vraiment noir. Les Noirs, c'était les Africains. C'est quand il arrive dans l'Hexagone, il prend conscience qu'il est noir, en fait.
Voilà, il prend conscience que lui qui se croyait français n'est peut-être pas considéré à 100% comme tel. Il y a ce fameux exemple de la dame qui s'éloigne légèrement de lui dans le métro. Vous voyez, ce genre de distance, de prise de distance qui fait qu'il se sent, je ne sais pas si c'est véritablement animalisé, mais en tout cas ostracisé et en tout cas inquiété dans ce qui était pour lui une évidence, à savoir son être français. Et en même temps, est-ce qu'il est autre chose que français ? Donc c'est ça un peu la question qui se pose. Dans ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au moment de la guerre d'Algérie, qui est son engagement fondateur, on pourrait dire, ce qui m'a frappé, c'est de lire, y compris dans l'édition des œuvres de Fanon aujourd'hui disponibles, les œuvres complètes, on trouve encore des textes, là, dans le postface ou préface, je ne sais plus, qui disent « Ah, mais Fanon ne pouvait pas vraiment comprendre la révolution algérienne parce que lui-même était d'un milieu athée militant et la révolution algérienne, c'était une révolution musulmane. Donc, si vous n'êtes pas musulman, est-ce que vous pouvez être véritablement partie prenante de la révolution algérienne ?» De lire ça dans les textes qui accompagnent les œuvres complètes, vous comprenez? Je me dis, mais en fait, c'est intéressant comme question, parce que du coup, pour moi, c'est la deuxième déconvenue, c'est-à-dire il embrasse passionnément cette cause de l'émancipation, et puis il rencontre encore une fois ici une petite différence qui l'ostracise. Et la troisième étape, c'est quand il dépasse la libération algérienne et qu'il envisage une cause panafricaine. Et là encore, on lui dit, mais vous n'êtes pas africain, monsieur Fanon. Vous êtes né aux Amériques. Donc, vous n'êtes pas exactement comme nous. Vous n'êtes pas peut-être la meilleure personne pour parler de l'émancipation africaine. Vous n'êtes peut-être pas des nôtres. Et donc, c'est à la fois bouleversant et tragique, cette histoire. Mais au fond, pour moi, qu'est-ce qui se dégage à travers ça, c'est que, en fait, au fond, Fanon n'a jamais voulu s'arrêter à ses particularismes. Lui aussi, c'est pour ça que je le dis de manière un peu ironique et provocante, mais je le crois très sincèrement, que c'est un philosophe des Lumières, c'est-à-dire c'est un philosophe qui pense des causes universelles et qui est prêt à s'engager pour elles. C'est un philosophe qui ne veut pas être assigné à une position. Il a des propos très durs et presque, je ne veux pas dire méprisants, mais par rapport à certaines manières de traiter la question noire. Il dit, si on trouvait un philosophe africain qui avait échangé des lettres avec Platon, ça serait sans doute très très intéressant, mais au fond ça changerait pas l'histoire. Enfin, en gros, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas trouver le contemporain africain de Platon, vous voyez. Ça ne ferait pas avancer nos affaires. De la même manière, il ne veut pas être assigné à cette peau, assigné à ce lieu de naissance, assigné à cette condition. Donc à chaque fois, toutes ces frustrations qu'il rencontre, je pense que c'est une frustration face à un déni d'humanité, face à un déni d'universalité. Il veut s'engager dans ces causes. Il considère que son engagement vaut celui de toutes les autres personnes et même supérieur peut-être à d'autres personnes qui sont nées ici ou qui ont eu tel profil ou telle particularité. Donc, pour moi, Fanon, c'est un vrai universaliste, en fait, au sens où il croit dans ses valeurs.
Et vous vous dites à la fin de votre livre, Thierry Hoquet, vous soulignez qu'un ton d'insoumission identique à celui des premiers philosophes qui ont dénoncé la colonisation est encore à l'œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont ces voix, quelle est leur portée, qui sont ces philosophes aujourd'hui?
Vous voulez dire
C'est-à-dire, donc, vous, pour vous, il y a encore une forme des philosophes sur la question coloniale qui ont gardé cette forme, ce ton d'insoumission de certains à une époque beaucoup plus reculée, qui dénoncent. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment... alors, c'est sans doute un peu long à développer, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, oui.
Comment se déploie la pensée décoloniale aujourd'hui?
Oui, alors, elle se déploie, je pense, en rencontrant, il me semble, certaines de ces questions. Si on considère, par exemple, les voix très fortes qui s'expriment dans le cadre des indigènes de la République, par exemple, on a cette idée de personnes qui sont porteuses de cette histoire de la colonisation, mais qui, en même temps, sont, je crois, de la même manière, indéniablement et indissociablement françaises dans leur identité. Donc, c'est encore une fois la même histoire, c'est-à-dire, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Les personnes qui sont nées aux Antilles, qui sont héritières de l'histoire de l'esclavage, elles sont consubstantiellement liées à cette histoire, et en même temps, il n'y a pas de manière d'effacer cette histoire. Et là aussi, Fanon, il nous éclaire, il nous dit que ce n'est pas parce que vous êtes héritier de cette histoire, que vous devez avoir comme tâche, pendant la petite période de temps où vous allez être sur Terre, d'endosser cette histoire avec tout ce qu'elle a de douloureux et de vous faire le héros et le porte-parole de cette histoire. Vous avez le droit d'avoir une autre vie que celle de simplement hériter de toutes ces souffrances. Donc, c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire, quelle place on fait aujourd'hui à la conscience qu'on a de l'histoire, à la conscience qu'on a de nos héritages, mais aussi au fait qu'il y a quelque chose d'irréversible dans tout ce qui s'est passé. Et il y a des nouvelles identités qui sont apparues.
Oui, mais on ne peut pas dans le même temps ignorer, Thierry Hoquet, le fait que nous vivons dans une société, dans un pays qui fut une puissance coloniale, subsiste encore des survivances, rémanences, des sédimentations.
Absolument. Oui, non, ça c'est indéniable et c'est extrêmement important de les souligner. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'était essayer de montrer, au fond, par rapport à des histoires de la philosophie qui étaient entièrement détachées de la question coloniale, comme si tout ça c'était hors sol, essayer de montrer tous les points d'appui, en fait, toutes les étapes où on voit finalement cette question qui travaille la pensée.
À différentes périodes.
Voilà, donc je pense que c'est important aussi... Exactement dans le contexte que vous décrivez, c'est-à-dire ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé, ne pas faire comme si... voilà. C'est-à-dire qu'il faut briser le voile, déchirer le voile d'ignorance un peu sur ces questions. Et c'est important de les remettre en avant. Là-dessus, je suis tout à fait... de les remettre en avant et d'instruire sur ces questions. Donc ça, c'est tout à fait central.
Dès que c'est ce que vous faites, donc, je rappelle donc, le titre du livre Thierry Hoquet, Histoire décoloniale de la philosophie française, avec le D toujours entre parenthèses, c'est important, de la Renaissance à nos jours. C'est aux presses universitaires de France. Merci Thierry Hoquet. L'heure est passée très vite.
Oui, en effet. Voilà, mais décoloniale avec le D entre parenthèses, parce que finalement, c'est aussi une histoire coloniale qu'il faut écrire.
C'est ça. Ouais. Je remercie Armand Gury qui était à la technique ce soir. Amis auditeurs, amis auditrices, je vous remercie de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Dancehall Reggae Vibes. Et à 22h30, vous trouverez Audiométrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée et un bon week-end à l'écoute d'Aligre FM.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining, annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.